une mort en direct.
Là-bas, tu vois, la mort en direct.
Zach Morris, vous irez écouter Serial Causeur en retenue.
Bonjour et bienvenue dans Serial Causeur. La télévision ne fait pas que de la série, elle fait aussi de la télé-réalité. Alors sous ce nom barbare se cachent des histoires sous forme d'épisodes également, mais aussi possiblement de saisons. Alors pourquoi la télé-réalité fait autant parler d'elle? C'est le sujet de cette émission. Avec moi les nice people, Stéphane de Toulouse.
Bonjour.
Fais avec l'accent, tu vois. La caricature du Toulousain.
Mais je sais pas faire l'accent toulousain.
Maxime de Paris.
Oui, tout à fait.
Et Aki de Suisse.
Super, super.
Ah bah oui, bah, tu veux que je dise Aki de Chine?
Non mais c'est genre, chacun a sa ville et moi je suis en francophonie quoi, limite, tu vois.
Bah t'as un pays, plein-toi, t'as un pays.
Oh là là.
Je sais même pas dans quelle ville tu es.
Ouais, tu bah, peux dire près de Genève, oui.
Ah bah oui, mais ça fait pas rêver. Enfin, faut le vrai nom du patin, quoi. Ah
bon. Ça fait rêver que si tu t'appelles Cahuzac, de toute façon.
Qui revient d'ailleurs.
Bah oui, c'est pour
oui,
ça.
C'est fou,
non,
quoi.
Mais je suis dans l'actualité, qu'est-ce que tu crois, toi?
Mais oui.
Waouh, quel journaliste.
Merci.
Bah, il n'est pas journaliste pop culture, donc il est au moins journaliste quelque chose.
Non, arrête, j'en reviens toujours pas. Bon, enfin, bah, c'est pas grave, on va pas raconter ma vie au micro.
Ah bah si, justement. C'était la réalité de Serial Causeur.
Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai oublié.
Comme à l'époque du confinement. Alors, Squid Game est revenu, mais sous forme de jeu mixant épreuves et moments de télé-réalité d'enfermement. Alors, à l'heure où on enregistre, on n'a pas eu encore le dernier épisode, mais ça sera en ligne quand vous écoutez cette émission. Est-ce que vous avez tenté, malgré la polémique, ce jeu qui est sur Netflix et qui a commencé, Stéphane?
Oui, parce que tu m'as forcé la main. Mais non, ben... Oui, j'ai regardé, mais oui. Je suis aussi... Non, mais je suis aussi atterré que pour la série, en fait. Voilà. Et voire même plus. Je comprends pas le principe. Je veux le truc avec les fausses balles pour tuer les gens, pour les éliminer. Moi, ça me perturbe terriblement. Je comprends pas.
Mais le principe, c'est de gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Mais oui, c'est ça.
Non, mais sérieusement.
Non, mais... Non, mais c'est... Bah, oui. Le concept, ça me plaît pas, quoi.
Enfin, bah oui, mais... je suis d'accord. Mais le principe, il est là, en tout
c'est
cas.
C'est trop problématique.
Bah, bien sûr.
Ouais. Non,
mais qu'est-ce qui pose le plus problème?
Bah, qu'en fait, ils reprennent exactement ce que la série dénonce, ou ce que pseudo elle dénonce, le capitalisme, bien entendu. Et bah, en fait, le capitalisme a pris le concept pour en faire quelque chose, pour engranger encore plus d'argent. Après, c'est quoi? Ils gagnent 4,5 millions de dollars. Ok, c'est une belle somme, franchement. Donc, je comprends que les gens soient emballés. Surtout, bah, ils ont leur portrait. Hein, vraiment, enfin, c'est bien foutu, en fait. Hein. L'émission en elle-même, elle est bien foutue. Mais le principe même, pose problème, je suis d'accord. Le concept, même pose problème.
Et vous trouvez ça bien fait parce que pour...
Bah oui, c'est bien fait.
C'est
hyper...
C'est extrêmement bien produit, bah bien c'est ça le problème, en fait.
Peut-être un peu trop.
Mais même... Enfin, oui, trop, mais c'est ce qu'on recherche aussi. Et tu vois clairement la patte Netflix derrière et le fait de pouvoir mettre de la thune dans un truc ultra cynique. Je vous rejoins sur le fait que c'est cynique. Mais... Le fait est que, en termes de divertissement, télé-réalité / jeu d'argent, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une émission de divertissement qui bousculait les codes à ce point-là. Enfin, bousculer les codes, c'est peut-être un peu trop fort, mais qui arrivait à faire du sensationnalisme à une époque où on a un peu tout vu déjà. Et ils ont utilisé une série qui fonctionne super bien dans ce mode-là. Et bah, en fait... Bravo à eux, hein. Ils ont réussi leur coup. Par contre, c'est vrai que c'est ultra cynique et que toute l'idéologie derrière avec ces personnes qui font semblant de mourir dès qu'ils ont perdu la partie, ce tas de personnes, je sais plus combien ils sont au début,
456.
456,
ouais. D'où les 4,56 millions.
Voilà, oui.
C'est pas 456 millions.
Non.
4 millions.
4 millions 56, oui. Mais... T'imagines, 4... je sais même pas comment ils sortent autant d'argent.
C'est pour, ça que c'est pour ça qu'ils sont tous bâtards entre eux après.
Puis après, à mon avis aussi, Squid Game de base, bon, j'ai pas vu la série, enfin, j'ai vu que le premier épisode, elle était construite un peu sur les codes de la télé-réalité aussi, et de ces jeux-là.
C'est pour ça que ça a eu du succès, je pense, c'est parce que on était complètement dedans, quoi. C'est pas tant la qualité de la série, c'est vraiment la qualité du jeu, quoi.
Ouais. Et est-ce qu'elle s'en moquait tant que ça quand tu es sur Netflix qui, en fait, va faire feu tout bois et où ton propos, je sais pas, social, politique, économique, tout ce que tu veux, en fait, il est un peu dilué dans ce cynisme-là qui est quand même une marque de ces grosses entreprises. Donc bon. C'est là aussi la limite d'utiliser le système pour dénoncer des choses. Bah, le système, il peut le réutiliser à son tour.
Complètement. Moi, je voudrais juste dire que les Game Masters sont vraiment forts sur ce jeu. Dans la prod, franchement, je trouve que c'est vachement bien fait. Il y a les sorties un peu genre anonymes, les mini-jeux. Enfin, il y a quand même beaucoup d'idées derrière. Ils reprennent pas que les jeux de la série qui, effectivement, sont dans la télé-réalité, là, enfin, dans l'émission. Mais bref, c'est marrant. Moi-même, je me dis, punaise, j'aurais bien voulu jouer à ces jeux sans tous ces trucs derrière, sans la pression, voilà.
Mais autant, moi bon, qui meurt, c'est vrai que c'est ça qui est un peu...
Moi, je trouve ça flippant.
Pas dérangeant, mais moi, je trouve ça drôle,
malaisant.
Entre guillemets.
Non, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle.
C'est pas de gênance non plus. Mais j'enlève ça, c'est pas gênant en soi, quoi. Un jeu contre l'argent, c'est normal, quoi. Tout le monde joue pour de l'argent, de toute façon. Donc après,
oui, mais il y a la façon de
que
le
ça
faire.
Marche dans une fiction. Vu que c'est une fiction, on parle pas vraiment de l'aspect, on va dire, de la gêne ou du malaise, parce que c'est une fiction, donc on excuse ça, on prend un peu ce qu'on veut pour l'analyser. Autant quand c'est un jeu qui mêle, entre guillemets, de la réalité, là, ça pose problème. Mais. Ouais. Moi, ça me pose pas de problème vraiment, quoi.
Alors, moi, ce qui m'a aussi dérangé, alors je sais pas, moi j'ai eu beaucoup de mal avec la série, donc j'ai très vite arrêté. Mais c'est les candidats, la façon. Alors, je sais que je regarde beaucoup de télé-réalité, mais bon, c'est surtout des dating shows, donc je peux comprendre la jalousie, la méchanceté et le fait les coups de pute. Mais là, c'est juste cruel. Les gens sont cruels entre eux, je trouve. Enfin, et juste pour parce que, en fait.
Ils sont sournois, parce qu'il y a de l'argent à la clé. En fait, voilà, l'argent, ça fait vriller les gens.
C'est ça. Désolé. Tiens, on va l'éliminer parce qu'on va gagner un peu plus d'argent. Et potentiellement, c'est moi qui vais gagner un peu plus d'argent à la fin. Et j'ai trouvé ça ignoble, en fait. Mais,
Ils sont carrément, mis. C'est même pas. Ils sont dedans, quoi. Ils sont conditionnés.
Oui, voilà. Donc,
parce que je trouve quand même qu'ils se.
Si,
quand même.
Mais non,
je pense
qu'on sait pas comment
derrière,
ça a été,
en fait,
a été filmé, si c'est en une seule journée.
Oui, parce que
journée,
pleurer
si
autant à la première émission quand tu te fais pas, quand tu perds 1-2-3 soleils, d'accord, mais
beaucoup de réactions,
je vous rejoins absolument dans ce que vous dites, mais c'est que pour moi, là où c'est cynique, c'est pas dans le fait de faire semblant de mourir, ça, à la limite, c'est une mécanique du jeu, bon, ok, c'est très maladroit, mais, soit.
Oh ouais, surtout avec les fusils à dos, je suis désolé.
Oui, non, mais là où moi, par contre, je suis très très dérangé quand je regarde ce genre de programme, c'est de montrer aussi des profils de personnes à quel point ils ont besoin de cet argent et qui sont capables de se mettre.
Ouais, c'est misérabiliste, là.
Voilà. Et il y a certains personnages, franchement.
Non, c'est pas des personnages.
Du coup,
c'est
ça rejoint la série, donc c'est.
Oui,
c'est, pas tant
oui, c'est limite, ils sont dans le désespoir ils ont besoin de cet argent, sinon c'est la mort, quoi, en fait, littéralement.
Le pire, c'est dans la première émission, donc il y a, un peu spoiler, mais il y a quand même presque la moitié des gens qui sont éliminés. La plupart des portraits qu'on a eus, c'est des gens qui disaient ouais, qui moi j'ai vraiment éliminés. Besoin de tant d'argent, machin, et on les voit perdre et pleurer et chialer leur vie parce que ils ont perdu. Enfin, je trouve ça cruel d'avoir pris ces gens-là, la plupart des portraits, de les montrer, de nous les faire.
C'est pas cruel. Là, pour le coup, ils ont fait des portraits de tout le monde, en fait. C'est tout.
Oui,
et
mais
ils
pourquoi
ont été
avoir
assez malins, justement.
Je trouve ça moche. Sachant des gens qui te disent clairement qu'ils ont vraiment besoin d'argent pour survivre, pour essayer de faire des trucs. Mais pas tous. Tu le vois qu'il y en a certains qui n'en ont pas besoin.
En même temps, c'est la télé-réalité. Il faut tous les profils de personnes. Si tu prends que des pauvres qui n'ont rien à dire, qui veulent juste de l'argent, il faut des personnages aussi.
Et il y en a qui vont jouer aussi d'autres rôles que celui qui a absolument besoin d'argent. Il y en a qui vont jouer le rôle d'obstacle. Je pense à chaque épisode ou quasi, il y a toujours un méchant. Quelqu'un qui va refuser de se plier à la règle.
Ouais. Enfin, un méchant entre guillemets, quand même.
Oui, non, mais c'est quelqu'un qui va se refuser de se plier à la règle, qui va aller contre, enfin voilà, qui va trahir ou qui va essayer de ruser pour tuer les autres. Et c'est là où il fonctionne vraiment comme de la fiction. Mais moi, vraiment, ce qui m'a dérangé dans les premiers épisodes, c'est ce que tu disais, Stéphane, le fait de voir ces portraits. moi j'ai absolument besoin d'argent, voire parfois pour des conditions médicales ou des personnes qui étaient quasiment à la rue. Et juste après, l'image d'après, et donc ça c'est quand même un choix de montage, c'est un choix de production, de montrer que c'est des personnes qui ne vont absolument pas gagner. Et du coup tu crées de la dramaturgie sur des trucs qui sont horribles en ce moment, je trouve.
Franchement, ça serait genre un épisode de Black Mirror, le truc, un petit peu. Hein. C'est exact. Enfin, j'ai l'impression que là, on est juste dans la période charnière où, voilà, on est vraiment pas loin. Avec cette émission-là, on est vraiment pas loin.
Mais parce que si elle arrive en France, on aura des gens aussi. La preuve, ici, ils ont réussi à trouver 456 candidats aux États-Unis pour le faire.
C'était pas qu'aux États-Unis, c'est international. Il y a genre des Latins, enfin des Sud-Américains aussi. Et tout. Hein.
Non mais anglophones, je veux dire.
Ouais. Oui. Et d'ailleurs, la polémique, donc.
Non, il y a un Italien en plus. Mais d'ailleurs, c'est le bâtard, c'est celui qui vole à manger. C'est un enfoiré, celui-là.
La polémique, c'est qu'il y aurait des acteurs dans le lot, ce qui ne m'étonnerait pas, vu, comme on dit, certaines réactions et certains personnages un peu trop. Pas caricaturaux, mais très bien écrits.
Ah, tu trouves qu'ils sont écrits ?
Après, il y a aussi cette histoire de...
Ah oui. De toute façon, il y a toujours une écriture dans tous les jeux.
Oui, dans la télé-réalité. Comme dans Koh-Lanta, en fait. Je veux dire, sauf que Koh-Lanta, je trouve qu'ils ont un peu plus l'amour du jeu. Et au moins, la stratégie fait partie de l'essence même du jeu. Alors que là, la stratégie, c'est égal la sournoiserie, quoi. Donc, bon, à un moment...
Comme tu viens de dire, en fait, il y a des jeux...
Il y a aussi les poursuites judiciaires, là, du... Oui.
Ah, il y a des jeux où ça me dérange moins que là, où c'est vraiment... Enfin, bon, c'est ignoble, mais enfin, je... C'est pas grave.
Tu coupes à qui pour dire... Pour
non,
te couper
non, mais... Ouais. Non, bah, voilà, virez-moi, virez-moi, s'il vous plaît.
À qui tu voulais dire? Tiens.
Oui. Ah oui, c'est tout à fait, ouais, vous avez vu comme quoi certaines personnes avaient été hospitalisées, et donc, parce que justement, les conditions de tournage, il faisait trop froid pendant le 1, 2, 3 soleil, là, et donc... voir ce qu'ils vont faire, mais bon, ça va sûrement se régler à coup d'argent.
Et apparemment, ils ont utilisé tous les préservatifs mis à disposition.
Tu m'étonnes.
Sans déconner.
Comme quoi, on ne sait pas sur combien de temps ça a été fait. Parce qu'en fait, tout le monde connaît tous les prénoms de tout le monde. Ils sont 400 personnes.
Mais ça a l'air long. 200. Non, mais c'est vrai que ça a l'air d'être sur un temps quand même assez, assez long.
Non, parce que forcément, il y a la vie de tous les jours. Oui,
puis on les fait dormir en plus.
Ouais.
Après, on sait pas vraiment où elle est dessous. Peut-être que ils sont tous dans un hôtel.
Ils vont tous au Ibis.
En plus, si mes souvenirs sont bons, c'est Studio Lambert, la boîte de prod, et c'était pour laquelle j'avais bossé pour The Circle. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Ah ouais. Et en tout cas, il y a des jeux inédits qu'on n'a pas vu dans la série, donc qui sont peut-être dans la saison 2, comme la bataille navale, les choses comme ça. Mais après, il y a des jeux qui sont des épreuves un peu... Enfin, ils sont intéressants au niveau psychologique. Par exemple, je sais pas si... Oui, je pense que vous avez vu, c'est l'épisode 3 ou 4 où il faut voter pour quelqu'un.
Oui.
Et que tu commences à voter pour quelqu'un, ça s'affiche. Et fatalement, pour pas que toi-même, tu sois affiché,
C'est pour ça que c'est dommage.
Tu affiches, tu votes pour celui qui est déjà là. Donc, c'est intéressant aussi.
C'est pour ça que
c'est social en même temps.
C'est pour ça que c'est dommage, en fait, qu'ils aient trop accentué sur le côté misérabiliste ou ces éléments-là. Parce que les jeux, en soi, ils sont vraiment cool. Le jeu de la bataille navale, de la manière dont c'est filmé, le fait que tu dois choisir qui est dans quel bateau et tu risques de faire éliminer tes potes, en fait. La mécanique, elle est pas conne, et elle fonctionnerait toute seule, en fait, et ce serait tout aussi divertissant.
Mais t'as un choix de montage où tu mises tout sur les épreuves où il y a les personnages intéressants et les autres sont un peu liquidés. Donc l'épreuve du jeu, finalement, s'efface par rapport à l'épreuve fiction. Quoi. Et d'ailleurs, tout le premier épisode, j'ai totalement passé les moments de télé-réalité parce que je trouve que...
Tu veux dire quand ils sont après vite. L'émission ? Enfin, après la première épreuve, quoi.
Ouais. Et finalement, après, j'ai regardé ces moments-là quand même, parce que là, on commence à les connaître. Donc, y a des gens qui ressortent, hein, fatalement. On a tous nos préférés, nos connards. C'est comme la série. En fait, la série jouait vachement sur les codes d'un jeu, donc on était à fond sur certains personnages.
Il y a un truc aussi qui fait que ça fonctionne pas, c'est que c'est pas la même culture que la série. Et la culture, les séries sud-coréennes, elles jouent beaucoup sur ces éléments un peu d'anticipation. Et du coup, ils savent les écrire. Là, très clairement, les Américains ont repris à leur sauce, c'est-à-dire en faire quelque chose de complètement mercantile, quoi.
Ah, mais en fait, l'utilisation des préservatifs, c'est pas pour... c'est comme stick à lèvres, tellement il faisait froid. Donc tout le monde les utilisait pour ça. Comme un petit câlin, vous pensiez. Oui.
Ouais, genre le lubrifiant sur tes lèvres, quoi. Ok. Ouais,
Stéphane, tout de suite, tu penses à autre chose, bravo.
Bah, désolé.
Non, mais voilà, bon, après, ça marche, hein, évidemment.
Ouais. C'est dans le top 10 hein, en ce moment. Donc, non,
c'est vu le succès de Squid Game, est-ce que c'est étonnant?
Non.
Clairement pas.
Absolument pas.
Du coup, on passe. Bon, on terminera par la télé-réalité française, hein, évidemment. On va parler série avec The Curse sur Paramount Plus, qui parle un petit peu de télé-réalité, puisque c'est le quotidien d'un couple qui est filmé 24 heures sur 24. Maxime, tu veux en parler?
Oui. Tu me demandes de la résumer ou pas?
Bah, parce que c'est très compliqué. Le résumé, c'est une prétendue malédiction semble s'abattre sur un couple de jeunes mariés qui essaient de concevoir un enfant, leur quotidien filmé 24 sur 24.
Ouais, okay. Mais dit comme ça reflète tellement pas la série. Non,
alors, ouais, clairement pas. En fait, on suit plutôt Emma Stone et Nathan Fielder.
Ouais.
Wow, j'ai eu un nom du premier coup. Qui joue des personnages, en fait c'est un couple de bobos qui rénovent des maisons écologiques dans des quartiers défavorisés. Et ils ont décidé de se faire suivre par une équipe de tournage pour faire une espèce de show télé sur « Regardez-nous, on fait des choses bien parce qu'on est des bobos riches ». Ouais. Et du coup, sur les 3 épisodes que j'ai vus, il y en a 4 je crois, tu les suis en train d'essayer d'avoir la meilleure émission possible, tout en découvrant en fait qu'ils cachent des choses un peu louches ou ce sont pas forcément des très bonnes personnes. Et c'est très étrange. C'est un rythme ultra bizarre. Tu ne sais jamais où va aller l'épisode. Ça, t'as l'impression que ça peut déraper à tout moment, mais ça dérape jamais. Au fur et à mesure, à partir du 2e épisode, moi j'ai été pris dedans. Et je sais toujours pas pourquoi. Mais vraiment.
Moi je trouve que c'est la définition du cringe. Vraiment, tous les épisodes, je suis à ça de faire. Je mets ma main devant les yeux tellement. Je mute tellement parfois leurs interviews sont gênantes ou quoi que ce soit. Même le début, en fait, l'une des premières scènes où il y a une de leurs clientes, enfin pas clientes, mais on va dire. Personne qui bénéficie de la rénovation et à qui on met des larmes, quoi. Déjà là, j'étais oh punaise, oui. cringe.
Ah oui, la grand-mère, oui, c'est vrai.
Ouais. Et puis, ouais, je sais pas, tout, c'est chelou, c'est même filmé chelouement, donc la mise en scène, elle est un petit peu spéciale. Ce qui fait aussi tout le génie de cette série, hein, je dis pas le contraire, mais en revanche, je la trouve hyper difficile à regarder.
Ah oui.
Et je crois que, j'en ai vu 3 aussi là, et j'ai un peu décroché, mais je crois juste que ça ne m'intéresse pas, je pense.
Ah ben.
Même si c'est un bel exercice, quoi.
Tu vois, moi, le 3e m'a fait tout l'inverse. La scène où Emma Stone et Nathan Fielder essayent de rejouer un moment à deux pour Instagram, je l'ai trouvé génial cette scène, parce que ça montre aussi un peu ce que va être la série, c'est-à-dire. Un regard très sarcastique sur les personnes qui pensent faire le bien, mais oui, qui en fait ne pensent qu'à elles-mêmes ou que à le bénéfice moral qu'ils vont recevoir de ces bonnes actions. Et le personnage d'Emma Stone, elle est géniale dedans. Au début, le premier épisode, j'ai eu énormément de mal avec elle jusqu'à ce que je comprenne quel était son personnage. Et ça, pour le coup, le premier épisode, il est très mal fait pour ça. Enfin, c'est dur de rentrer avec cet épisode-là.
Bah, surtout qu'il est plus focalisé sur le mari, quoi.
Oh, pas tant que ça, pour le coup.
Si, pour le coup, oui, si. Ouais. On voit le plus, lui et ses problèmes, et la façon dont ils essayent déjà de gruger avec le réalisateur de du reportage, quoi.
Oh, je l'aime pas, lui. Bref.
Oui, non, Benny Safdor, il est bizarre.
Ouais. Mais c'est ça, ils sont tous bizarres de toute façon, mais c'est hyper naturel pour le coup, genre Emma Stone là, je sais que c'est Emma Stone, mais son personnage est tellement réaliste, enfin genre tous les personnages sont trop réalistes, peut-être c'est juste ça qui me gêne aussi. Du coup la frontière avec la fiction parfois elle est un petit peu mince.
C'est ça qui donne le côté un peu cringe que tu disais, ouais. C'est que c'est très un peu à la Atlanta parfois où il y avait des situations très très réelles, mais du coup très très inconfortables aussi. Et t'as pas envie de les regarder parce que tu sais que toi ça va t'arriver un jour ou ça t'est déjà arrivé. Et du coup c'est vraiment pas un bon mood, mais je trouve que dans la série ils le font super bien.
Mais c'est drôle ou c'est grinçant?
Non, c'est pas drôle. Enfin, non.
Dramédie, tu vois, genre style dramédie, mais un peu plus long.
Et encore, t'es sympa, hein?
Bah, c'est des humeurs. Il y a des scènes qui sont, qui sont faites pour être drôles, même si à l'intérieur, il n'y a pas de blague.
Non,
c'est plus pour créer le malaise que pour le vrai rire, quoi.
Toujours dans le malaise. D'ailleurs, c'est ça qui est fort aussi. Enfin, les pauses ou justement dans les dialogues où il y a parfois des silences, t'es. Eh ouais, c'est ça la vie. Hein. Tu sais pas quoi dire. Oui.
Mais par exemple, la scène dans l'épisode 3 où il regarde les retours sur la première émission, les retours publics, le silence, justement, moi, c'est là où ça me faisait rire. C'est la seule fois où j'ai ri, si je dois être honnête. Hein, mais là, je ne l'ai pas trouvé gênant parce qu'il se moquait du personnage et il s'en moquait à juste titre parce que c'était tout ce qu'on avait vu sur les deux premiers épisodes. Donc, je ne sais pas, il y avait un espèce de retour de bâton qui, pour le coup, m'a fait rire.
Et du coup, c'est créé par les deux acteurs, hein, Nathan Fielder et Benny Thubdi. Ouais. Et vous aviez déjà vu des choses d'eux, comme Nathan For You, les choses comme ça?
Non, mais ça ne me donne pas envie, hein, je vous le dis. Ouais.
C'est si pas que Nathan For You, c'était très drôle, donc.
Alors attends, je sais même plus si c'est celle-là, la dernière série de des fausses situations là. Oui, c'est ça, oui, qui est recréé. Ouais, oui, mais ça j'ai regardé et j'ai eu énormément de mal.
Ouais, pareil.
Et j'ai pas compris pourquoi on criait au génie, tout en comprenant que pourquoi on pouvait crier au génie. Donc en fait, ça m'a laissé dans une situation très perplexe. Et en fait, c'est pour ça que je me suis lancé dans The Cure. Je me suis dit potentiellement je vais y arriver. Puis il y a Emma Stone et en fait au final je suis en train de passer complètement à côté, quoi.
Et il a créé aussi The Rehearsal.
Ah, mais c'est The Rehearsal, pardon. C'est celui-ci que j'ai vu.
Ah, c'est celui-là. D'accord.
Oui, pardon, c'était la dernière.
C'est un peu de l'humour à la Seinfeld. Et du coup, moi, je trouve que c'est un peu de l'humour à partir de rien. Et il y a des personnes que ça fait énormément rire, ce truc sur le malaise. Et nous, non. Mais
alors, bon, pour le coup, j'ai beaucoup ri avec Seinfeld. Hein, mais là, je suis perdu.
Moi, j'ai été beaucoup mal à l'aise aussi avec Seinfeld. C'est une sitcom, donc je comprends qu'on rit plus, hein. Mais j'ai été aussi très très mal à l'aise.
On sait où ça va aller ou pas du tout?
Aucune idée.
Il y a un but, un objectif.
Aucune idée,
franchement. Bah, j'espère qu'il y a l'heure où on enregistre, il n'y en a que 3. Il y en a 4, la 4e aujourd'hui, sur 10. On conseille quand même de regarder par curiosité le premier.
Oui, bien sûr. Et puis des gens vont trouver leur compte, hein.
Parlons du coup de télé-réalité dans les séries, plus ou moins. Évidemment, celle qui nous vient à l'esprit en premier, qui était assez récente, c'était La Flamme / Le Flambeau, qui était l'adaptation de Burning Love. Mmh. Alors, est-ce que ça vous a fait rire, La Flamme et le Flambeau?
Oh oui.
Franchement, je ne sais pas pourquoi, parce que d'habitude, j'aime pas du tout ce genre d'humour, mais là, j'ai vachement rigolé.
Bah c'est Jonathan Cohen.
Pourtant, Burning Love, j'avais pas tant aimé que ça. Hein. Voilà, je tiens juste à dire ça.
Moi, je suis très client de cet humour, enfin, de l'humour de Jonathan Cohen, mais aussi de l'écriture, ce genre d'écriture, ce genre de parodie qui se cache pas derrière quoi que ce soit. C'est une parodie. Et elle hésite pas à aller dans le. Voilà. Et ça hésite pas à être absurde et c'est drôle. Et du coup, ça excuse beaucoup de maladresse parce que. On n'est pas à 100%. Enfin, je veux dire, il y a des épisodes qui sont en dessous, c'est sûr.
Oui.
Mais
il y a des blagues ratées aussi. Hein.
Oui, il y a des blagues ratées.
C'est sauvé par d'autres personnages. Il y en a tellement que.
Par les personnages, par le fait
et
que.
Par les acteurs aussi.
Et ils sachent où s'arrêter aussi. Enfin, non, vraiment, moi, je.
Comment La ça, Jonathan Cohen sait s'arrêter?
Franchement, non, mais je veux dire, c'est 9 épisodes. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas étendu le truc non plus, la blague, plus qu'elle ne devrait l'être.
Donc première saison, c'était parodie du Bachelor et deuxième de Koh-Lanta. Je trouve que celle du Bachelor est un peu mieux réussie quand même.
Oui.
Ah ouais, tu trouves? Pour le coup, j'ai préféré le Flambeau, moi. Mais
Ah bon? Mais en fait, moi, je trouve qu'il y a moins de scènes en commun dans le Flambeau. Ils sont trop séparés et je trouve qu'on y perd un petit peu. Alors que dans La Flamme, l'émission était beaucoup plus le fluide, en fait, entre guillemets.
Ouais.
Alors que dans le Flambeau, je trouvais que c'était un petit peu... ça allait dans tous les sens, quoi. Même si j'ai découvert Laura Felpin là-bas et vous savez que je l'aime. Voilà.
Non, mais dans le Flambeau, le souci, c'est qu'il se repose plus uniquement sur l'humour de Jonathan Cohen, mais il y a aussi Kadmerad et Gérard Darmon. Et c'est dur d'exister face à ces deux mecs-là, quand même. Et il y a un déséquilibre. Alors que dans le Flambeau, c'était vraiment du Jonathan Cohen à 100%. Et ils avaient construit les personnages des meufs dans
autour de lui,
autour de lui, mais aussi en fonction de Burning Love. Enfin, elles avaient aussi des personnalités en miroir, donc ça fonctionnait. Là, vu que c'était une page blanche, je pense qu'ils sont, ils ont eu un peu plus de mal à écrire des personnages au-delà de, bah, de justement Gérard Darmon, Jonathan Cohen et Cadmerat, quoi.
Mais tu vois, mentionnant Gérard Darmon et Cadmerat, je trouvais que leur humour était hyper répétitif. Enfin, en fait, on a compris une ou deux fois leurs blagues et à la fin, ils ne se renouvelaient pas. Alors oui, celui de Jonathan Cohen aussi, mais comme lui, il est amené à, il est dans toutes les situations possibles, bah du coup, c'est quand même un petit peu frais, quoi. Mais pour les deux, bah non, en fait, ils sont toujours un peu à la traîne, un peu.
Je suis plus client de Jérôme Commander que de Gérard Darmon, personnellement.
Ouais, mais là, il est pas très bien exploité.
Moi aussi. Et Burning Love, vous aviez vu?
Oui.
Moi, oui, j'avais vu aussi. Ah, bon, on a tous vu, parfait.
Parce que ça, c'était pas très connu non plus.
Ouais, ça avait eu un petit. Ça avait quand même eu un petit succès.
C'est 2012, hein, quand même, c'était assez.
Ça avait eu un petit
succès. Moi, j'adore l'équipe de Children's Hospital, donc j'avais regardé, ouais, comme ça.
Bref. Et puis, il y a Ken Marino, Kristen Bell, enfin, ils étaient bien connus.
Super casting
à
pour les fans de série, hein.
Ouais.
Mais c'était trop nul, enfin, je suis désolée, mais.
Non,
enfin.
Ah, non.
Bah franchement, si, pour le coup, c'était dans l'exagération 300%, même pas tout seulement 200, c'est dans 300%. Et comment il s'appelle? Bah Ken Marino, justement, en fait, à la longue...
Mais c'est comme chez Children's Hospital, j'arrive pas à comprendre que tu puisses aimer l'un et pas l'autre, en fait.
Ah, si, je pense parce que c'est plus court, déjà, parce, peut-être. C'est quand même que des petites pastilles, hein, Children's Hospital. Et là, et en fait, il y a pas vraiment de fil rouge. Et donc, tu vois, ils peuvent se permettre tout et n'importe quoi. Je sais pas. C'est. Mais pourtant, je suis d'accord. Hein, c'est quasiment la même équipe. Hein, donc, oui. Mais Burning Love, je les ai tous trouvés faux en fait. J'avais l'impression. Alors que dans La Flamme, je les ai tous très justes. Donc bon.
C'est
quoi,
les acteurs
parfois
français.
Le jeu français. Hein.
Ouais. Ah bah. autre série qu'on avait beaucoup aimé à l'époque, ou du moins sa première saison, c'était Unreal.
Oui, la première saison.
Ouais.
Oh, moi j'avais tout aimé.
qui est bah, pareil, qui parlait d'une, bah, du Bachelor aussi, je crois. Hein. Tout comme ça. Oui, c'est
ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Ouais.
Les quatre il y a quatre saisons. Oh, je ne sais même plus. Six,
oui,
quatre
six,
saisons.
Quatre. Ouais.
Oui.
La première saison était très bien parce que voilà, c'était aussi la fraîcheur, etc. Ils ont voulu faire durer le concept. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché dedans?
Ce qui marchait, c'était vraiment la première fois qu'on... En fait, la télé-réalité à ce moment-là, je pense, était vraiment à l'un des pics de son âge d'or, qu'on va dire. Et donc, en fait, tout le monde se posait plein de questions sur les coulisses. Et eux, ils ont osé un petit peu lever le voile sur comment ça se passait, ce genre de prod. Et en fait, ça a fasciné tout le monde. Et puis, bah, évidemment, c'était des environnements hyper malsains. Les personnages, il y en avait, enfin, ils se tiraient tous dans les pattes. Enfin, c'était des personnages assez horribles, hein, il faut le dire. Mais, ouais, bah, enfin, pour moi, c'était un bon timing. Et bah, ça s'est un petit peu perdu bah, parce qu'ils ont pas réussi à se renouveler malgré le fait qu'il y ait un nouveau bachelor et une bachelorette d'ailleurs pour l'émission.
Non, moi, j'ai adoré la première saison parce que c'était le premier regard cynique qu'on avait sur la télé-réalité. Et ce qui a fait que j'ai détesté les trois autres, c'est parce qu'en fait, la série est devenue elle-même une télé-réalité. Alors que la première saison, il y avait une intrigue, mais c'était vraiment ce côté toxique de ce milieu-là qu'on observait. Et par exemple, les personnages joués par Constance Zimmer et Shiri Appleby, je les ai vraiment dans la première saison. Pour moi, ça faisait partie des personnages, parmi les personnages les plus forts que je voyais à cette époque-là. Ils étaient vraiment bien. Et après, c'est devenu l'ombre d'elle-même parce qu'elle ne jouait que des rôles dans une télé-réalité pour savoir qui allait trahir qui allait coucher avec qui et qui allait remporter un prix à la fin. Alors, je ne sais pas quel prix. Est-ce que c'était le prix du plus grand connard ou. Enfin, peu importe. Mais c'est ça qui a perdu la série. Ou alors qu'il l'a transformé en autre chose, mais moi, ça ne m'allait plus.
Oui, parce que autant les coulisses étaient intéressantes, mais le jeu aussi également. Mais là, c'était vraiment plus, comme tu disais, ces deux personnages-là qui trustaient le temps d'antenne. Et finalement, on oubliait un peu la mécanique même de la série. Le jeu, plus personne, enfin, on s'en foutait. Les personnages étaient beaucoup moins intéressants. Et c'est devenu, peut-être pas une caricature, mais vraiment moins pertinent, quoi.
Mais c'est marrant que vous le voyez comme ça parce que de base, elles ont toujours été les héroïnes en fait. Enfin, pour moi, le jeu était effectivement important, mais c'était tout ce qui se passait derrière qui était le point central. Donc, le jeu, il a toujours été secondaire pour le coup.
Ah, mais ouais, mais ça, les agissements qu'elle faisait en saison 1 allaient vers.
Au service du jeu.
Étaient faits pour le jeu, étaient au service du jeu.
Alors ah oui,
là,
d'accord.
C'était vraiment le jeu, on s'en foutait. C'est et tout ce qui était over the top, c'était les coulisses, quoi.
Je peux pas dire. Enfin, franchement, j'ai une mini expérience dans la télé-réalité. Et en fait, c'est ça. Hein. Je pense qu'ils ont tous le syndrome du main character parce que leur vie et enfin de l'équipe est plus intéressante que ce qui se passe dans le jeu. Hein, je vous le dis.
C'est sur une plateforme Unreal.
C'était pas Netflix qui avait renouvelé parce que quand Lifetime avait arrêté.
C'était Hulu. Non, il y avait Hulu.
C'était Hulu. Ok.
Oh, c'est nul.
Mais je pense pas que ce soit disponible. Tiens. Je suis allée sur un site qui s'appelle Beta Série pour aller voir.
Je ne connais pas.
Non, c'est pas disponible en France.
Ouais, c'est nulle part. Quoi.
C'est fou parce que
je crois que c'est jamais sorti en DVD. Hein.
Ouais. Le meilleur rôle de Constance Zimmer, hein, disons-le.
C'est vrai, voilà, qui a disparu après.
Non, elle faisait vachement d'une saison une saison. Elle fait trop de choses. Ouais. Elle était dans le truc de Prime, la Shelter. Elle a fait. Je l'ai vu dans plusieurs trucs en plus, ouais.
Dans Shameless, mais vraiment pas longtemps.
Ah oui.
Maintenant, name dropping. Alors, vous avez cité quelques-unes. Bon, il n'y en a pas grand-chose. Je commence par Alice in Borderland, qui va de pair avec Squid Game, que j'avais trouvé plus efficace que Squid Game.
Ah ouais, mais non, mais si tu pars comme ça, non. Enfin, pardon.
Oui, non, mais parce que c'est plus un jeu qu'une télé-réalité. Parce que là, finalement,
mais c'est surtout
qu'il
y a genre 50 séries japonaises ou coréennes qui font ça, en fait, littéralement.
Mais je préférerais qu'ils fassent une émission avec les jeux d'Alice in Borderland que, tu vois, qu'avec d'autres.
Wow.
Par exemple. Bah, évidemment, on ne va pas tuer les gens.
Oui, évidemment.
Heureusement.
Bon, c'est pas... vous avez cité Dead Set.
Ouais.
Ah, c'était bien, ça, quand même.
Oui.
C'était avant-gardiste. Ah là là.
Alors, c'est que 5 épisodes, hein, mais voilà, c'est vraiment, ça dure, c'est quoi, c'est 1 de 45 et 4 de 25, donc c'est vu très rapidement. C'est créé par le monsieur derrière Black Mirror qui est.
Charlie Brooker.
Comment il s'appelle ? Charlie Brooker. Et donc, c'est une télé-réalité qui. De type Big Brother, je crois que c'est même Big Brother, non ?
Oui, oui, c'est un Big Brother, mais c'est. Oui, c'est littéralement Big Brother, oui.
Et il y a une attaque de zombies au Royaume-Uni. Et donc, et du coup, les occupants latéralité de cette maison ne sont pas au courant, mais les zombies arrivent. Et c'est fun.
Dans mon souvenir, c'était très gore.
Oui.
Bah oui, il y a du sang partout, oui.
Ok, bah oui, ok. Bah c'était très gore.
Mais pas dans la peur, dans la comédie.
Oui, donc voilà. J'ai dit gore, j'ai pas dit film d'horreur, mais oui, d'accord. Okay.
Oui. Tous ceux qui l'ont vu l'ont aimé, en fait, cette série. Malheureusement, peu de gens l'ont vu.
Ah, pareil, c'est trouvable où, ça ? À Prime, apparemment. Je vois Prime. Oui, c'est sur Prime. Donc, vous pouvez regarder. Bon, il n'y a pas eu de suite, hein, mais voilà, ils auraient pu faire un long film, n'est-ce pas ?
Oui.
Oui, pour le coup, oui.
On a Siberia.
Oui.
Est-ce que c'est une grosse frustration de ne pas avoir eu de suite ?
Mais tellement. Mais quand tu lances le premier épisode et que tu regardes cette série... parce que c'est une série et pas une télé-réalité, tu te dis pas qu'au bout des 13, tu vas être frustré à ce point de pas voir la suite. En gros, c'est l'histoire de... je sais plus combien ils sont, 16 ou 18, un truc comme ça. Survivants, enfin pas survivants, candidats qui vont aller survivre en Sibérie. Sauf que dès le premier jour du tournage de la télé-réalité, les choses se passent mal et ils sont attaqués par des choses qu'il y a dans la forêt. Voilà. On va pas dire jusqu'au bout, mais du coup, il y a, c'est ouais, je crois que c'est 13 épisodes. 11, voilà.
Ouais.
Tous les épisodes partent dans un sens où tu sais pas où tu vas, et c'est vraiment, enfin moi j'avais trouvé ça très très jouissif d'avancer vraiment dans l'inconnu et de penser que tu allais commencer à regarder une télé-réalité et pas du tout.
Ouais, ça avait été diffusé durant l'été 2013, donc dans la différence générale sur NBC.
NBC.
Oui.
Ouais.
Mais c'était la grande époque encore des séries d'été avant que ça finisse à la trappe, quoi.
Mais est-ce que la suite, ça aurait été le même type d'émission ? Qu'est-ce que ça aurait pu faire ?
En fait, tu sais pas, justement, la série se termine sur un twist où tu sais pas sous quelle forme ça peut revenir, mais ouais, tu sais que ça va revenir.
Ouais. Oui, ils auraient pu se baser juste, enfin, enlever l'aspect candidat de télé-réalité. Parce qu'en fait, je me souviens plus trop de la série, mais c'est des candidats, mais c'est pas sous forme de jeu. C'est-à-dire que chaque émission n'est pas le jeu, c'est vraiment
non.
Oui, ben c'est non, la en fait, pure fiction. Quoi. Enfin, c'est pas, comment dire, c'est tu suis pas le jeu comme si c'était diffusé.
Bah pendant 2-3 épisodes, t'as encore la mécanique de télé-réalité parce que ils ont, enfin pas des épreuves, mais voilà, comme Koh-Lanta, voilà,
manger, c'est voilà, ça. Il faut vivre quoi.
C'est ça, mais il leur arrive des choses un peu comme si c'était Yellow Jackets, mais sous format télé-réalité. Il faut survivre. Et après, c'est là que ça déraille. Au fur et à mesure, ils instillent un peu de fantastique, de peur, et à un moment, ça déraille et la série bascule dans totalement autre chose que de la télé-réalité.
Alors oui, en fait, j'ai trouvé le point. Est-ce que les caméras sont les caméras de l'émission
Oui.
À 100%, ou est-ce que y a les caméras...
Bah dans mon souvenir, oui, parce qu'elle bouge, elle court après les gens quand ils partent en courant et tout. Oui, non,
tout ce qu'on voit, c'est
immersif. C'est les images, oui, parce que, ouais, voilà. C'est les images
de Blair Witch, quoi.
Ouais,
Ils filment quand même. Ouais, ok. Et je me souviens, parce qu'il y avait une avant-première à Paris, diffusion des deux premiers avec un des acteurs, ouais. Bon, c'était quand NBC, enfin, quand Universal faisait des soirées blogueurs, tout ça. Il y avait un des acteurs qui était là. Bon, c'était déjà annulé depuis très longtemps. On lui avait demandé, il y aura une saison 2, il dit, je peux pas vous le dire. Alors, il était déjà au chômage, le mec. Hein. Mais les petits fours étaient bons. Donc, voilà. Mais moi, je m'en souviens pas du tout de Sibérie. Est-ce que ça vaut le coup de s'y plonger, même s'il y a pas de fin et...
Moi, je dirais oui, et j'ai voulu la retrouver, et j'ai pas réussi. Donc, il faudra peut-être que je continue à chercher, parce que c'est vrai qu'elle m'a laissé un excellent souvenir, et dans la période creuse qu'on a eue, je sais pas pourquoi j'y repense. Je repense souvent à elle. Donc, je me dis qu'en effet, ça devrait être bien de faire un rewatch, quoi.
Ouais, mais pareil que Stéphane, dès que. Enfin, ouais, je repense aussi souvent à la série.
Je pourrais pas te dire pourquoi, parce que c'est vrai qu'elle a marqué et c'était fun à regarder. Et en effet, de la frustration à la fin, au bout des 11 épisodes, mais. Je me souviens pas qui joue dedans, je sais même pas qui l'a créé, je sais pas. Je pourrais rien te citer là-dessus, à part le nom, Sibéria, et je sais que j'ai kiffé. Voilà.
Alors, il y en a une qui ressemble un peu à la télé-réalité, mais enfin qui aurait pu donner lieu à quelque chose, c'est Persons Unknown. Est-ce que vous en souvenez?
Je l'avais sevé à l'époque.
C'est cette personne qui se retrouve dans une ville et qui sont filmées 24 sur 24, mais on sait pas pourquoi. Et surtout, le dernier épisode, totalement what the fuck, où est-ce qu'on peut révéler? Il se réveille à l'intérieur d'un sous-marin.
Oui, mais ça, pour moi, c'est...
Ils sont au milieu de la mer.
C'est pas de la télé-réalité, c'est plus comme... Oui, c'est du concept, c'est comme Le Prisonnier, Lost...
Oui, mais ça joue aussi sur les... Enfin, c'est arrivé quand même à une époque où il y avait quand même beaucoup de télé-réalité, ça joue...
Ça joue sur les codes.
Ça joue sur les codes de la télé-réalité.
Ouais, ou de la prison.
Et il y avait Chadwick Boseman dedans.
Voilà. Okay. Je m'en souvenais plus, tu vois. Okay.
Et je crois que c'est pareil, c'est introuvable. C'était sur NBC également, je crois. Si je me trouve. Ouais, NBC en août 2010, donc ça remonte. The Big Leap.
Ah.
Stéphane.
Ben, c'était notre série chouchou de, je sais plus, il y a 2 ans déjà.
Pareil, c'était annulé.
Plus, ouais, je pense.
2021, ouais. Septembre.
2021, 2 ans, ouais. Il y avait 10 petits épisodes. C'était quoi? Ouais, Stevie Scott Foley. C'était un mélange de nouvelles stars, mais pour la danse, quoi. Oui, c'est ça.
Ouais.
Oui, ils faisaient un casting pour recruter des gens pour faire une comédie musicale. Ouais, c'est un truc dans le genre. Mmh. Et ils prenaient un peu n'importe qui. C'était fun, c'était drôle. Il y avait un mélange de coulisses et de gens, de la vie des gens, parce qu'on les suivait dans leur quotidien parce qu'ils faisaient des portraits. Et les personnages étaient tous top. Et, enfin, il y avait, je sais pas, moi, c'était très feel good. Donc, franchement, ça m'a laissé un bon souvenir. Et puis, on a de la chance, celle-ci, elle est disponible sur Disney+. Donc, voilà.
Ils l'ont pas retiré parce que, tu sais, dans la pure, je me demande la pure.
Je l'ai vu par contre, je l'ai vu ce matin sur Canal+, là, dans le catalogue de Disney, donc oui, c'est
bon. D'accord.
Du coup, la purge, il pourrait faire un jeu, la purge.
Non, purge, ça serait tellement bizarre.
Battez-vous pour votre catalogue.
Mais franchement, moi, un jour, peut-être de notre vivant, je tiens le pari, hein, voilà.
Ah, une vraie purge.
Une vraie purge de notre vivant.
Ah oui, d'accord, moi, je pense des pays en Suisse, sûrement.
Non, alors clairement pas.
Du coup, oui, est-ce que ça jouait sur les codes aussi parce qu'en fait, on parle pas que de séries qui parlent de télé-réalité, on parle vraiment des séries aussi qui utilisent les codes de la télé-réalité. Est-ce que ça marchait comme ça ou est-ce que ça marchait?
Bah là, il y avait des moments confessionnels, donc ouais, c'était assez marrant, quoi. Mais en vrai, au-delà de ça, il y avait pas non plus. Enfin, c'était une vraie série dramatique, enfin dramédie pour le coup, et sans trop les codes, je trouvais. Il y avait pas des moments, par exemple, que tu enregistrais à l'insu du candidat ou quoi que ce soit, quoi.
Bah si, il y en avait. Bah que tu racontes, bah si.
Bah non, mais il y en a un moment et c'est tout. Enfin, genre dans un épisode.
Ils ont même créé des fausses romances pour les pousser à se, enfin des faux trucs pour les pousser à s'aimer, pour que ça faisait de l'ambiance, etc. Ouais, bah si.
C'est juste que c'est la version feel good de Unreal.
Oui, clairement. Oui, parce que TV Scott Foley, c'était le Constance Zimmer de The Big Bang.
Ah oui, ça complètement. Ouais.
Mais c'est parce que l'émission se prêtait à moins de trash, parce que Bachelor, c'est une émission de dating et du coup tu peux aller beaucoup plus loin. Là, c'était une émission de danse et très clairement, t'allais pas voir une meuf à moitié à poil faire du twerk. C'était plus sur la communication autour des personnages dans les médias que sur l'émission en elle-même. Donc du coup, t'avais un peu plus de place.
Je me souviens bien, ils ont quand même essayé de pousser des gens à se blesser pour pouvoir récupérer la place de l'autre dans la danse. Hein.
Oui, mais vu que c'était pas sur le moment de l'émission, ça laissait plus de place à développer les personnages. À la fois les candidats que les équipes. Donc je trouve que c'était moins... toxique, entre guillemets. Enfin, il voulait moins montrer le côté toxique que le côté Scott Foley est un immonde connard et il va changer en côtoyant ces personnes-là tout en restant quand même un producteur de télé, quoi.
C'est vrai.
Est-ce qu'il y a une fin?
Oui.
Oui et non, oui, il y a une mini-fin, mais bon, ça aurait pu continuer, quoi.
Okay. Bah oui, mais ça va marcher.
Ouais.
Non.
Je comprends pas pourquoi ça a pas marché en plus, parce que franchement c'était un peu gentil pour la période, c'est ça qu'il nous fallait, enfin je sais pas. Est-ce que c'est dû à la diffusion? Je ne sais pas.
Ils avaient misé gros dessus en plus, hein, la Fox, hein, et bizarrement ça c'est votre...
Ça aurait extrêmement bien marché sur Netflix.
Malheureusement.
Ah, tu penses?
Ouais.
Non, quoi, tu dis ça, mais moi je vois pas de série similaire sur Netflix. Hein.
Mais non, dans le sens où c'est... En fait, c'est un truc feel good, comme vous le dites. C'est un truc que tu peux binger tranquillement. Et peut-être qu'elle n'a pas survécu sur les chaînes, sur les networks, ou à l'heure où tu viens pas revoir ça semaine après semaine. Enfin, je sais pas. Je sais pas.
Tu ne sais pas.
Non.
Alors que là, pour le coup, ça avait du sens de le faire semaine par semaine parce que tu avais quand même des twists et des retournements, des beaux cliffhangers sympathiques pour pouvoir tenir la semaine d'après, quoi.
Autre série, The Comeback, mon comeback en français, avec Lisa Kudrow. Qu'est-ce que ça racontait? Qui veut en parler? Très bien. C'est ça quand on distribue pas les rôles au début, voilà. Hein.
Non, mais non, alors le problème, c'est que j'ai aucun souvenir. Je sais que j'ai regardé la saison 1 et je n'ai aucun souvenir de cette série.
C'est une star de sitcom déchue qui essaye par tous les moyens de renouer avec le succès. Elle devient la vedette d'une émission de télé-réalité intitulée Le Comeback.
Mais c'est surtout que je confonds avec Web Therapy, je crois. Enfin,
oui, l'interview des gens sur son ordinateur, donc ça vaut quand même.
Et parce que dans les deux séries, elle joue sur le même humour. C'est l'humour de la bourgeoise très, très coincée. Enfin, pas coincée, très... Hautaine, oui. Ouais, oui. Et elle joue exactement sur le même humour, sauf que d'un côté, elle joue une psy dans Web Therapy, et là, juste une ex-star qui a beaucoup trop la grosse tête et qui fait payer tout le monde pour le fait qu'elle n'a plus de gloire, en fait, et elle essaye par tous les moyens de retrouver cette gloire qu'elle avait. Donc c'est un peu Lisa Kudrow après Friends, 15 ans après Friends, mais dans une version très très exagérée. Et la saison 1 est pas très bonne, par contre la saison 2 est excellente. Elle est très très drôle. La saison 1 était pas trop, enfin il y avait des gros problèmes d'écriture. Et dans la 2, justement, genre, je sais pas s'ils ont fait venir de nouveaux scénaristes ou pas, mais ça se rapproche un peu de VIP dans l'humour, enfin, je trouve. Et ça essaie pas d'en faire des caisses.
Sachant qu'il y a eu quand même un gap entre les deux saisons. Oui. Hein, voilà, c'était un revival la saison 2.
9 ans.
Oui.
9 ans, voilà.
Ouais. Donc 13 épisodes la saison 1 et 8 pour la deuxième. Donc, sur HBO. Bah, et c'est dispo sur le Pass Warner, apparemment. Mais qui va aller chercher mon comeback, ça?
Bah, peut-être qu'ils ont fait remonter toutes les séries des acteurs de Friends.
C'est possible.
Ah, c'est possible.
Ouais. On peut parler aussi de la saison 4 de Dr. House.
Hein?
Oui, ah, Dr. Oui. House fait une campagne de recrutement avec une centaine de candidats. Oh. Et il élimine à chaque épisode.
Pas du tout.
C'était la saison de la grève. Et il élimine les candidats un par un et c'était vachement bien.
Et qui reste?
C'était la petite là de... Comment elle s'appelle
Genova Arcadia.
Oui.
C'est vrai.
S'appelle
J'ai Olivia Wilde à la...
Amber Tamblyn.
Ah, voilà.
Ah oui, c'est vrai. Ouais.
Oui, puis je crois qu'il y a une petite Asiate aussi.
Non, ça c'est dans les dernières saisons.
Ah bon, c'est en 8. Oui.
Bah, s'il n'y a pas Olivia Wilde dans le...
Si, Olivia Wilde, mais elle arrive qu'à la saison, je dirais... Ah, bah peut-être par là.
C'est là.
C'est sorti.
Elle gagne.
Oui, elle n'est pas dans le lot des candidats.
Si, c'est sûr.
Si, elle arrive après.
C'est 13. Numéro 13.
Ah bah oui.
Ah bah oui. Bien vu. Bien joué, Stéphane.
On n'avait pas compris. Oui.
Donc voilà, je trouvais que ça fonctionnait vachement bien, même si c'était la saison de la grève.
C'est la meilleure saison, arrêtez.
J'en ai zéro souvenir, c'est fou. Un jour, il faudrait que je me les refasse, les House. Mais c'est juste que d'entreprendre un visionnage de 8 saisons, j'ai pas la foi.
Bah, surtout qu'elle est pas toute bonne, quoi.
Un formule à chaud, pratiquement, tu peux.
Mais enfin. Je peux pas sélectionner, je saurais même pas quoi sélectionner.
Bah, si t'aimes pas, tu zappes. Eh oui. Allez, on termine par la télé-réalité française qui bouscule tout le monde en ce moment. C'est Frenchy Shore sur MTV et Paramount+. On vous a demandé de regarder. Maxime, tu as tenu combien de temps?
2 minutes 30.
Très bien. Qu'est-ce que tu as
regardé
de cette
pré-générique?
Mais non, mais en fait, j'ai regardé le pré-générique et j'ai pas tenu 2 minutes 30, j'ai tenu 7 minutes. Ah. Et j'ai regardé la mécanique après derrière. Vraiment, je peux pas. En fait, ce genre d'émission, ça me met une bouffée d'angoisse pour la planète. En fait, je suis pas contre le fait qu'on montre du sexe à la télé, des gens qui s'amusent. Bien au contraire, c'est très cool et il faut le faire. Mais en fait, quand ça va dans la vulgarité, et à la fois la vulgarité des scènes, enfin de ce qui se passe, mais aussi la vulgarité des personnes qui sont tellement en plus unilatérales. Ce sont des personnes qui vont parler que de cul, que de sexe, c'est la même chose, que de relations. En fait, je trouve ça vulgaire parce que les personnes, elles se réduisent pas qu'à ça. Et j'aime bien les téléréalités qui peuvent montrer un peu plus de facettes des gens que celles-ci. Et du coup, j'ai eu une bouffée d'angoisse en regardant ces 7 minutes. C'est pas possible. Enfin, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé.
Non, puis c'est vrai, puis c'est vite énervant, en fait, tous ces personnages over the top.
Ça crie.
Qui crie tout le temps.
Ah oui, mais ça, c'est le concept aussi. Mais
et
bon,
qui. Ouais. Non, mais toutes les télé-réalités sont comme ça. C'est-à-dire que c'est. On te demande aussi de réagir à des images, mais avec un texte, parce que c'est tellement mal joué qu'ils ne savent pas réagir à leurs mais propres images. Donc, on leur dit. Faut que tu leur dises ça. Et c'est.
Ce qui me dérange aussi, juste pour finir, c'est la multiplication, en fait, de ces contenus qui font qu'on a l'impression que c'est banal et que c'est une vraie vie que certaines personnes mènent. Ce truc de on se soucie quasiment pas de l'argent, même si là j'ai bien vu qu'il y avait une mécanique autre.
Pour travailler, voilà.
Oui. Mais bon, comme à la Secret Story ou Love Story, ils devaient le faire. Enfin, on sait que c'est du fake.
Ah, mais ils s'en cachent pas, surtout qu'en plus ils changent chaque épisode, ils font un travail différent, ils essayent de toucher un peu à tout.
Oui, voilà.
Sauf qu'en fait, c'est très mal fait, contrairement à, pour le coup, c'est le point négatif, contrairement à Jersey Shore où c'était un peu plus sérieux, quoi, là-dessus.
Des gens que je connais, d'expérience, voient ces émissions vraiment comme une réalité. C'est plus une télé-réalité, ils pensent vraiment qu'il y a des gens, et peut-être à raison, avec tous les influenceurs, mais qui mènent ce genre de vie. Et je trouve que c'est dangereux, aujourd'hui en tout cas, de montrer ça et de continuer à avoir autant de contenu comme ça. Enfin, moi, quand je vois mes sœurs regarder ce genre de contenu et suivre des influenceuses et que ce soit leur seule source d'information, ouais, je sais, je vais loin, mais ça fait. Enfin, moi, je trouve que ça fait peur.
Moi, je pense que c'est beaucoup plus de gens qu'on ne le pense qui sont complètement immergés dans cette télé-réalité-là, que ce soit avec les anges. En fait, le truc, c'est que ça tourne 24 heures sur 24. Si tu sais sur quelle chaîne aller, il y en a tout le temps. Et donc, en fait, tu regardes, NRG regardes 12. Un et puis c'est...
Non, mais ouais, c'est, bah, beaucoup voilà, moins pareil. Qu'avant. Hein.
Oui, double et... aussi.
En fait, moi aussi, ça me... Bon, moi, j'ai pas tout vu non plus. J'ai regardé les moments un peu viraux qui ont circulé sur le net. Et bon, une petite partie du premier épisode. Mais pareil, j'y arrive pas, en fait. Parce que bah, déjà, le sexe, ça m'intéresse pas. Donc, en fait, le fait qu'ils en parlent non, tout le temps...
Le sexe des autres t'intéresse pas.
Oui. Et donc, du coup... Et donc du coup, bah forcément, enfin toutes leurs conversations ne m'intéressent pas. Le côté oui. vulgaire, pour le coup, je trouve pas ça choquant.
Non, c'est la jeunesse d'aujourd'hui ça.
Ouais, voilà. Enfin, bon, j'irai pas jusque là.
Non.
Non, non. Mais enfin, en fait, j'irais même. Je trouve pas ça vulgaire vu tout ce dont tu le parles. Je trouve que ça pourrait être vachement pire en fait. Donc et le font mine de rien avec tellement d'ouverture d'esprit. Parce qu'ils en parlent vraiment sans tabou, que je suis presque plus satisfaite de voir comment ils réagissent que si pardon, comment dire, je ne trouve pas ça vulgaire dans le sens où ils sont vachement open sur ce qu'ils disent, voilà, et eux ils le et font pas pour être vulgaire aussi. En fait
ça, oui, non, ça c'est bien parce que ça montre aussi que la jeunesse elle a évolué sur ce genre de sujet et en effet je trouve ça très cool dans les extraits que j'ai vus en tout cas ça transparaît et c'est pour ça aussi qu'au début j'ai lancé l'épisode parce que je me suis dit ah il y a peut-être un truc à jouer sur justement cette sexualité pas débridée mais complètement ouverte et qui va montrer des choses autres à ce public là. Ouais. Mais vraiment, moi, là où je peux pas, c'est de ce que t'as dit, Stéphane, c'est la jeunesse d'aujourd'hui.
Non, c'est exagéré, faux. Mais voilà.
Non, mais bien sûr. Mais je veux dire, c'est faux. Et le problème est qu'on ne voit que celle-ci. Et en fait, il y a plein de gens qui disent justement, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Moi, je pense à mes parents, mes grands-parents, qui voient la ministre, voilà, qui voient ça et qui se disent, oh là là, vraiment, eux, ils veulent plus travailler, ils vont vivre à nos dépens. Enfin, vrai. Et je trouve que ça donne pas une belle image de ces personnes-là. Parce qu'elles ne sont pas que ça non plus. Et celles à l'écran, et celles qui n'y sont pas. Hein, mais j'ai vraiment du mal avec l'image que ça donne des gens.
Bah surtout que ça propose rien d'autre. Quoi. C'est vrai, tu l'as dit, ça propose rien d'autre.
Enfin, c'est une émission de dating où littéralement le non. synopsis c'est des fêtards vont aller faire la fête à Cap d'Agdin. Donc, ouais. je veux dire.
Si c'est y pas y du dating, truc, c'est juste.
Ça mélange quand même assez bâtard.
Non, pardon, du chopage, pardon.
Oui, voilà, c'est un truc où on te fait créer une famille plus ou moins artificielle de potes et c'est juste des gens qui s'amusent. Le truc qu'il faut retenir de Frenchy Shore, c'est le casting qui est quand même assez
Oui, hyper queer et tout.
Voilà,
oui,
Tom m'a engueulé quand j'ai dit révolutionnaire, mais pour beaucoup, à la télévision française, un casting dans une émission de télé-réalité.
Mais en quoi il est révolutionnaire?
Mais parce qu'il
d'avoir
est queer,
une trans
parce
déjà,
qu'il...
c'est ouf, quoi.
Voilà,
il y avait déjà dans, je crois, c'est Sky Story, Thomas.
Oui, mais là, on voit la sexualité de la personne, on voit la personne faire son coming out, on la voit dire tout haut et tout clair des choses importantes, et on les voit, les autres gens, réagir, on les voit accepter la personne. Pour le coup, il y a quelqu'un qui est même
déjà,
un garçon qui...
Si tu crois à cette réalité-là, non.
Ben non, je suis d'accord avec Stéphane.
Alors non, Tom, je suis d'accord que tout est produit, mais à un moment, quand tu sais pas, tu sais pas, quoi.
Et pour voilà. le coup, les personnages LGBT des téléréalités comme Secret Story ou Love Story n'ont servi que de faire valoir soit pour se...
Aussi, hein. Ouais.
Non, mais dans ces téléréalités-là, ouais. ça a été des faire valoir pour oui. se moquer ou alors des outils pédagogiques pour expliquer à la masse ce qu'était un homosexuel ou ce qu'était une personne trans ou queer de manière générale. Et en fait, c'est là où, du coup, l'émission m'intéresse un peu plus, c'est que ça veut dire que enfin on a dépassé ce truc de l'homo, c'est un totem dans une émission, c'est-à-dire qu'il nous en faut un, il nous en faut surtout pas deux. Et là, si c'est ouvert, enfin, si les choses sont faites de manière plus ouverte et en montrant vraiment la sexualité des gens et qu'ils en parlent, ça normalise. Mais du coup, là, elle serait vraiment là, la nouveauté. Donc, ça m'étonne.
Ah ben, pour le coup, elle l'est et incasse certains codes parce que le personnage, tu vois, le petit Enzo, l'homosexuel, c'est pas l'homosexuel que tu vois dans toutes les émissions, les autres émissions de télé-réalité où, en effet, comme tu disais, des fois, il sert à faire parloir. Là, t'as un mec qui est pansexuel. Oui, voilà, ouais. Il est pansexuel. Il couche avec tout le monde. Ah. T'as Uriel, ben, elle fait son coming out trans et puis il y a le mec et ben, en fait, au final, ben, ça le, il te dit, au final, un trou est un trou, donc au final, il y va. et il s'en fout, mais sachant que c'est voilà, c'est un truc. Et
c'est mieux de dire ça que la fétichisation d'ailleurs.
Ah oui, non, mais clairement. Ouais. Et sauf que et puis on
enfin, te montre un ressort comique quoi. C'est
bah non.
Tu parles du enfin de la plupart des choses, enfin des moments de où on parle de cette émission-là, on sort le coming out et tout de suite après on montre cette réaction-là.
Bah, en fait, c'est pas un ressort comique, c'est justement une question d'acceptation. Moi, je le vois comme ça aussi. Parce que littéralement, enfin, si je puis dire, un trou est un trou dans le sens littéral, quoi.
Oui,
Et ça, c'est pas de l'acceptation, je vois pas ce que c'est.
Non,
quoi.
Mais c'est-à-dire qu'on te dit ça et après on te montre ça. Non mais tu regardes l'émission, les épisodes, tu vois aussi la façon dont ils se comportent au quotidien, la façon dont ils et ça change beaucoup de choses. Comme disait Maxime, c'est la normalisation, elle va passer par là. Certes, il y a des fois ça va être sorti de son contexte et en effet parce que peut-être qu'il a dit un trou est un trou, peut-être voire peut-être même avant et voilà, après il couche avec Auriel, il se passe des trucs et ça lui change rien et ça prouve que en fait ça peut se faire et il y a aucun problème là-dessus quoi.
Mais pour autant, est-ce que ça a besoin d'être fait dans la vulgarité?
C'est pas aussi vulgaire que vous pensez que ça l'est.
Mais c'est quoi la vulgarité pour
toi? Mais t'as vu de 7 minutes et franchement
Mais c'est la vraie question. Pourquoi c'est vulgaire pour toi? Parce que ça, enfin, tu vois, dans
quel sens parle mal et parce qu'il faut, il baisse tout le temps, il se met à poil tout le temps, parce que
oui, le langage est vulgaire.
Et parce qu'on ne montre que
c'est
ça.
C'est pas si vulgaire que ça.
Je ne dis pas que eux sont vulgaires. Je dis pas. Et à chaque fois qu'ils parlent, c'est dans l'exagération, c'est dans l'acting, c'est dans le fait de jouer un personnage. Et du coup, c'est ça qui les rend vulgaires. Si c'était des personnes que je verrais potentiellement parler très calmement, enfin,
Mais ça y est, ces moments-là. En fait, ce que vous voyez ou ce qu'ils nous montrent, parce que bon, en effet, le montage est putassé, mais en même temps, c'est du Frenchy Shore. C'est du Jersey Shore.
Parce que ça existe depuis des années. Il y a eu Jersey Shore et des choses comme ça.
Oui. Alors,
peut-être moins vulgaire. Mais...
Alors voilà. Non. Pour le coup, c'est pas moins vulgaire parce que les Jersey Shore, c'était vraiment quand même des
Américains,
des grosses raclures.
Des Anglais.
C'est très différent. Non, Jersey Shore chez les Américains. Jordy Shore, j'ai jamais regardé, donc je peux pas vous dire. Mais les Anglais sont quand même très.
Il y avait Snooki, je me souviens de Snooki.
Voilà. Oui, Snooki.
Ah, Waterhouse, c'était là?
Non, c'était Snooki. Non, mais bon, c'est pas grave, c'est les États-Unis.
Ah oui, c'est Snooki. Voilà.
Oui. Enfin, je sais pas. Je vous invite vraiment.
Stéphane.
Je vous invite vraiment à regarder un épisode en intégralité.
Bah, j'ai vu. Non.
Si t'as regardé que le premier, il faut pas regarder juste.
Non, j'ai regardé hier. J'ai regardé hier sur MTV.
Mais je pense qu'il y a vraiment des gens pour qui, qui parlent comme ça. Enfin, juste que. Alors, ça se trouve que c'est juste du classisme qu'on est en train de faire, je vous le dis.
Non, mais alors, c'est pas absolument pas ce que je voulais dire. Je critique pas les gens qui parlent comme ça. Je critique le fait de ne montrer que ça.
Oui, il faudrait qu'ils mettent des gens de différents ensemble. Plutôt que mettre que les gens qui se ressemblent.
Oui,
tous.
Enfin, qui sont les gens qui veulent participer à une émission de télé-réalité.
Oui, non, mais ça, c'est.
Bien sûr, mais ça, c'est autre chose. On est d'accord.
Secret Story, c'était ça. T'avais. Ou le Loft, c'était des gens de tous bords.
C'est ça. Up and down.
Non, mais autant. quand on pense, là, maintenant, 2023, on a Frenchy Shore. Et il y a 22 ans, on avait Loft, on crie au scandale.
Ouais.
Je trouve qu'au bout d'un moment, à force de pousser les limites, on arrive quand même à un truc.
Quelle limite ça franchit?
Aucune.
La limite de l'acceptable, en fait.
Non.
Franchement, je suis pas d'accord, ça.
Pousse les limites, tu vois, le Loft.
Mais il y a rien de non acceptable,
en fait.
Le
Loft, c'était un scandale à l'époque. Je sais pas si vous en souvenez, il y a 22 ans, on pensait...
Mais parce qu'en fait, à l'époque, il y avait rien d'autre de similaire.
Oui, mais fatalement, tu vas faire autre chose, mais un peu plus poussé. On a fait ça, bon, on va faire ça un peu plus poussé. À force de faire un peu plus poussé, il faut, au bout d'un moment, il faut dire stop.
Oh là là. Mais en fait, pour moi, je suis pas d'accord parce que on tue pas des gens. Voilà, pour moi, là, le Squid Game, limite, c'est pire, en fait. Parce que c'est de la pure manipulation. Voilà, c'est du divertissement, en fait. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et les gens, ils font rien de mal, pour le coup. Et même entre eux, ils se font... Enfin, moi, si, forcément, parce que c'est juste... Ils font des coups bas, un petit peu, pour créer des tensions, du drama en tant que télé-réalité. Mais il y a rien de... Ok, je vais le dire, il n'y a rien de moralement répréhensible.
Mais
voilà.
Si, parce que tu transformes ces gens en influenceurs.
Qui gardent cette
caricature, ce personnage, et ils restent dans ce truc-là, ça crée...
Mais c'est du marketing,
on a pas assez de recul pour le savoir, ça, pour le coup.
Non, mais si, on l'a maintenant, ça va, on l'a. Regarde, les anges, oui. Ça a duré pendant des années. Maintenant, il y en a beaucoup moins parce qu'on commence à sentir en tourloupe. Mais ce que je trouve, c'est qu'il y en a sur Twitter qui sont totalement à fond, comme si c'était des vraies choses. Enfin, moi, pour moi, c'est pas des vraies choses.
Oui, mais ça c'est un autre problème aussi. Hein. La perception oui, en fait, de certaines personnes, de la façon
dont oui, mais on parle bien de pourquoi problème. On regarde, pourquoi. Enfin, tu vois, t'as ce que tu proposes et.
Mais c'est vrai que maintenant, regarde, quoi. Tous les candidats savent qu'ils y vont pour un objectif professionnel derrière. Et du coup, ils créent un personnage dans les émissions dating. Mais il n'y a rien de vrai, du coup.
Mais non, mais ça, je ne suis pas d'accord.
C'est des acteurs, hein, en fait.
Oui, ça, moi, je le vois comme ça. Et c'est pour ça qu'ils sont payés aussi. Hein.
Oui.
N'oublions pas.
C'est simplement des acteurs. C'est, en fait, l'hypocrisie est de nous faire croire que ce sont des vraies personnes. Tu peux y voir une plus ou moins bonne fiction, en fait.
Ah ben, c'est toujours pour ça que je regarde, parce qu'il y a quand même un mélange de fiction. Ouais. Pour moi, c'est de la fiction, donc voilà quoi.
Oui, voilà, c'est ça.
D'autres noms qui vous viennent à l'esprit ou pas du tout?
Bah du coup, ça m'a fait penser à la Starac, je sais pas pourquoi, parce que...
Mais t'as raison, parce qu'il y a un concept de show musical et puis de quotidienne.
Ben, Drag Race aussi.
Oui, tu voulais parler de Drag Race.
Oui, c'est vrai. Ah, oui.
Non, mais c'est pour moi, je les rassemble, mais vas-y, à qui?
Non, je voulais juste dire que j'étais vachement impressionnée par la popularité de la Starac encore cette année, et à quel point c'est pas non seulement des nostalgiques, mais aussi des jeunes actuels, enfin des vrais jeunes, hein, plus nous qui ne sommes plus jeunes, des vrais jeunes qui regardent et qui sont vachement enthousiastes avec l'émission et tout, et... À quel point ceux qui regardent la quotidienne ont un regard différent par rapport aux personnes qui regardent que le prime. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Et est-ce qu'ils agissent différemment dans la quotidienne de ce qu'ils faisaient il y a 20 ans?
Dans quel sens?
Bah, tout le monde est conscient qu'ils sont filmés.
Voilà,
donc,
c'est ça. Est-ce qu'ils agissent plus en acteur, comme vous disiez, qu'en genre qui se faisait filmer avant, quoi?
Ouais. Ce qui est un peu différent pour la Starac, c'est quand même, il y a un aspect école, quoi. Donc, pour le coup, tu peux pas tricher sur... sur tes
compétences. Ce qui se passe dans la maison. Ah oui, non, mais ça, d'accord. Voilà. Mais après, ce qui se passe dans la maison, sur voir le drama s'il se crée entre des gens parce qu'ils veulent coucher ensemble.
Non, franchement, il n'y a pas trop de drama comme ça. En revanche, la production est beaucoup plus présente et tout le monde reproche ça à cette saison-là, que tout est vraiment surproduit, que les évaluations ne servent à rien, ce genre de choses, quoi. Mais bon.
Mais c'est vrai que tous mes collègues qui sont assez jeunes sont à fond dans la Starac, quoi.
C'est vrai? Oh, putain, c'est tout ça quand même. Et dans vos environnements, ça parle de Frenchy Shore ou pas?
Pas du tout.
Par contre, ça parle beaucoup de la Starac. Mais plus expérience sociale qu'autre chose.
Oui, on en a parlé
mais
aussi.
Mais beaucoup plus Starac. Hein. Ouais. Okay.
On parle aussi au repas de Frenchy Shore, mais parfois ça se croise, donc on sait plus si ça se passe dans la Starac ou Frenchy Shore. Mais quand on parle de cul, on sait que c'est pas Starac.
Vous parliez des jeunes, je trouve que la Starac, ça offre pour le coup un regard vachement, on va dire, différent sur les jeunes d'aujourd'hui, là, pour le coup. C'est parce qu'en plus, ce sont des, entre guillemets, des artistes, certains qui avaient déjà des followers ou pas, mais eux, ils ont l'air plus... ils sont pas là pour faire la fête, pour le coup. Ils sont là pour devenir chanteurs, quoi.
Oui.
Mais c'est là où, moi, je la rapproche de Drag Race. C'est parce qu'en fait, c'est des téléréalités qui sont basées sur le travail gratifiant de voir, en fait, de suivre des élèves qui vont devenir meilleurs pour... En fait, voir gagner celui qui a capté un peu l'attention du public, en fait. Et je trouve que dans la dynamique, c'est plus ce que j'ai envie de voir aujourd'hui que des émissions de dating ou même d'aventure. Ça instaure le plus de gimmicks, ça te donne envie de... Enfin, ça t'investit. Là où les autres téléréalités, je trouve qu'elles ont tendance à me désinvestir totalement. Tu regardes vraiment de manière très passive et...
C'est les codes, c'est typiquement le voyage du héros et c'est la base de toute histoire. Donc c'est vrai que,
ouais, c'est ça.
C'est bien de terminer là-dessus aussi, de se dire que finalement les codes sériels qu'on retrouve, c'est vraiment de suivre des personnages, enfin des personnages, des incarnations, je ne sais pas, des personnes...
Oui, ouais.
D'un point A à un point B, après, si c'est pas très intéressant, on regarde plus. Starac, il y a un but. Frenchy Shore, il n'y en a peut-être pas. On trouve un plaisir différent, comme dans les séries. Et c'est vrai qu'on retrouve aussi beaucoup de codes, évidemment. Et les saisons, la Starac, le truc, c'est qu'il n'y a pas du tout les mêmes personnages à chaque saison. Et alors que dans les téléréalités, c'est souvent les mêmes qui reviennent. C'est peut-être ça. Après, je ne sais pas si c'est ça qui a fait perdre un peu les audiences des téléréalités, mais c'est qu'il y a eu beaucoup de lassitude aussi au niveau des personnages, et qu'on retrouve aussi évidemment dans les codes de la série, c'est-à-dire que si ça dure trop longtemps, on se lasse aussi, quoi. Pour boucler la boucle, il y aura la série Trash qui reviendra sur Loana, sur la vie de Loana, c'est ça, je crois.
Non, sur pas sur la vie de Loana, sur le Love Story,
sur
la
Love
première
carrément,
saison.
D'accord.
Oui.
Mon Dieu.
Oui. Moi, je suis un petit peu curieuse parce que pareil, ça touche vachement la fibre nostalgique quand même. Hein.
Et Popstar va revenir aussi sur Prime.
Oui, c'est vrai aussi. Ouais.
Ah bah, P.O.
Oui, P.O.
Les Watford.
Ouais.
Les quadricolores, allez.
Les quatre primaires.
Merci à qui, Stéphane et Maxime, pour vos lumières. On se retrouve très vite pour parler des séries dans Serial Causeur, votre podcast favori. Ça, on le sait, on a eu les retours du Spotify Wrapped. Merci à tous de nous avoir suivis et passez de bonnes fêtes si on ne se revoit pas avant. Salut.
Bye.
Tchou.